crame vite dans le train des souris.
Voilà, et bien l'expérience dont nous allons parler à la une de la science aujourd'hui, Axel, implique bien un train électrique et des rongeurs, et c'est pour parler de la mémoire.
Oui Mathieu, c'est presque parfois un jeu d'enfant de faire de grandes découvertes. Une équipe de chercheurs du Collège de France, de l'INSERM et du CNRS démontre par quel mécanisme les lieux que nous visitons le jour sont revisités mentalement la nuit pour être mémorisés. C'est une découverte et une expérience élégante dont nous allons parler, et on en parle avec vous, Michael Zougaro, bonjour.
Bonjour et merci de m'avoir invité aujourd'hui pour discuter de cette expérience avec vous.
Merci à vous, vous étiez un peu le chef d'équipe et le chef de gare dans cette expérience. Vous êtes neurobiologiste pour le CNRS et vous publiez ces résultats dans la revue Science. Alors on va revenir au train un peu plus tard. Expliquez-nous ce que vous cherchiez à comprendre précisément au sujet de la mémoire de ces rongeurs d'abord.
Alors ce qu'on cherchait à comprendre, c'est quels sont les mécanismes qui permettent pendant l'éveil, pendant l'exploration, de faire une première mémorisation de faits nouveaux qui pourront par la suite être consolidés, c'est-à-dire renforcés pendant le sommeil pour être maintenus en mémoire pendant un plus long terme, éventuellement des années.
Oui, parce que le fait que le sommeil nous servait à consolider la mémoire, ça on le savait.
Il y a énormément de travaux sur ce sujet-là, nous avons d'ailleurs contribué aussi. Et là, la question c'était plutôt comment ces motifs d'activité qu'on enregistre dans le cerveau pendant le sommeil pouvaient être mis en rapport avec le comportement. Donc, qu'est-ce qui permettait de transporter l'information entre, on va dire, l'expérience éveillée et le sommeil? Comment c'est mémorisé entre ces deux phases avant de pouvoir être consolidé?
Alors, pourquoi mettre les rats dans un train électrique pour répondre à cette question?
Alors, pour pouvoir vous répondre, il faut que je revienne un petit peu en arrière. Bon, d'abord, il faut que je vous donne quelques éléments pour comprendre le contexte. Mmh. Les neurones que nous enregistrons dans l'hippocampe jouent un grand nombre de rôles, mais en particulier, le mieux documenté, c'est de coder la position de l'animal dans l'environnement. Mmh. Donc vous avez différents neurones qui codent différentes positions dans l'environnement. Et donc quand un animal parcourt une trajectoire, différents neurones vont s'activer les uns après les autres.
Est-ce que c'est ce qu'on appelle les neurones de lieu, tout simplement, ou pas?
Voilà, ce sont les cellules de lieu, ouais, qui ont donné lieu d'ailleurs à un prix Nobel en 2014 pour leur découverte. Donc ces neurones vont s'activer lorsque l'animal parcourt une trajectoire dans un environnement. Et vous allez avoir une séquence, au fur et à mesure que l'animal avance, on va avoir le neurone A, puis le neurone B, puis C, puis D. Et ce qu'on observe, c'est que pendant le sommeil, au moment où la mémoire va être consolidée, l'hippocampe va spontanément, de manière endogène, va rejouer ces mêmes séquences A, B, C, D. Et que ça, nous l'avons montré, c'est fondamental pour la consolidation de la mémoire.
Donc on réactive les neurones de lieu la nuit dans les mêmes endroits et dans les mêmes lieux que le jour, c'est ça?
C'est un petit peu comme si les rats rêvaient, mmh, qu'ils sont en train de reparcourir le labyrinthe dans lequel ils ont fait leur comportement au moment où ils étaient éveillés. Une exploration virtuelle, en quelque sorte.
Et pour la suite de l'expérience, on en est tous au même point, on attend l'explication sur le train électrique,
Michael Zougaro. Voilà, donc pourquoi le train électrique? Alors ça, on revient un petit peu en arrière. Il y a quelques années, nous avions fait un travail dans lequel nous avions transporté des rats sur un train électrique pour... il s'agit de savoir ce qui se passait quand les rats allaient en marche arrière. Bon, je vais passer très brièvement là-dessus, mais c'était assez rigolo comme expérience. Et ça part d'un échec. C'est-à-dire que lorsque les rats étaient transportés en marche avant, qui est une condition de contrôle dans cette expérience, juste pour reproduire des conditions, on va dire, normales, en fait, c'était pas du tout normal. On a observé que même si les neurones codaient encore le lieu, mmh, si on zoomait en quelque sorte sur leur activité, on regardait de très près dans le temps, à une échelle de temps fine, donc à l'échelle de temps de la milliseconde, on va dire, les neurones étaient un petit peu altérés. Si vous voulez, le décours temporel précis des potentiels d'action émis par les neurones était perturbé. Donc ça marchait pas bien et il a fallu travailler plusieurs années pour essayer de trouver un protocole qui réglait ce problème.
Donc si j'ai bien compris, le train est là pour perturber la mémorisation du rat, c'est bien ce que vous nous expliquez.
Voilà, alors c'est ça, c'est-à-dire que comme on avait constaté à nos dépens à un moment donné que ce transport passif perturbait l'activité fine des neurones, par la suite... Nous avons pu, en quelque sorte, transformer un citron en citronnade, même si un citron, c'est déjà bon à la base, et tirer parti de cette découverte fortuite pour dire maintenant, nous allons pouvoir perturber le décours temporel précis des potentiels d'action de ces neurones, tout en maintenant intact leur comportement à une échelle de temps beaucoup plus lente.
Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que, bien sûr, il y a des rats qui sont sur ce train électrique et il y a des rats qui sont sur le train, mais aussi sur un tapis roulant. Et à la fin, vous découvrez que ceux qui ont marché pendant le parcours du train ont mieux mémorisé que ceux qui ont été passifs. Est-ce que j'ai bien résumé?
C'est tout à fait ça. Alors, pourquoi? En fait, c'était la solution dont je parlais tout à l'heure pour régler le problème de cette perturbation de fonctionnement normal des neurones. Ça avait été de mettre les rats sur un petit tapis roulant. Donc, quand ils marchaient sur le petit tapis roulant en même temps qu'ils étaient transportés par le train, tout fonctionnait normalement. L'hippocampe avait son fonctionnement normal. Donc, maintenant, elle était capable, si vous voulez, à volonté, de perturber ou de laisser intact ces séquences très rapides, ce fonctionnement précis des neurones, soit en allumant, soit en éteignant le tapis roulant lorsque les rats étaient transportés par le train.
D'accord.
Alors, pourquoi cette question ? Là, on a parlé un peu du protocole, mais quelle est la question ? Évidemment, le but n'est pas de savoir ce qui se passe quand un rat est sur un tapis roulant, parce que c'est pas une situation très écologique. Et la question, c'est que nous savons que, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque le rat explore son environnement, les neurones vont s'activer dans un certain ordre, faire une séquence ABCD qui après est rejouée pendant le sommeil pour la consolidation. Mais ce qu'on observe aussi, si on regarde à une échelle de temps très fine, c'est qu'à chaque instant, les neurones sont également en train de produire très très rapidement cette même séquence, ABCDE, 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 alors que le rat est en train de la parcourir lentement. Donc on a à la fois une séquence lente, qui correspond à celle du comportement, et à une échelle de temps beaucoup plus fine, le film est en quelque sorte joué en accéléré, ABCDE, ABCDE, ABCDE. Donc quelque chose de tout à fait surprenant, remarquable. Et la question c'était de savoir, est-ce que ça c'est vraiment quelque chose d'utile, d'important, de critique, ou est-ce que c'est juste un épiphénomène, si impressionnant soit-il ?
Alors justement, Michael Zugaro, est-ce que
de ça pour mémoriser.
Pourquoi vous avez besoin de passer par des rats justement pour faire cette expérience ? Est-ce qu'on on pourrait l'imaginer sur des humains ? Et est-ce que la conclusion est la même d'ailleurs pour les humains ? Est-ce que nos neurones de lieu fonctionnent de la même manière ?
Alors il y a des neurones de lieu qui ont été documentés aussi dans plusieurs espèces, et en particulier chez l'homme, ainsi que d'autres neurones qui ont été initialement découverts chez les rongeurs, mais dont on sait qu'ils existent aussi, comme les neurones de direction de la tête, les cellules de gris, etc., qu'on trouve chez le primate non humain ou chez l'homme. En l'occurrence, ces expériences pourraient difficilement être faites avec les techniques d'imagerie dont on dispose chez l'homme. On a besoin de techniques qui ne sont applicables qu'aux rongeurs.
Est-ce que, Michael Zugaro, à travers cette expérience, vous ne retrouvez pas aussi quelque chose qu'on ressent un peu tous les jours ? C'est le fait qu'on mémorise mieux, par exemple, quand on est conducteur, que quand on est passager en voiture ?
C'est tout à fait compatible avec cette observation que nous avons tous faite, même si évidemment il y a un saut entre les deux et je me garderai bien de conclure trop rapidement, mais ça va effectivement dans ce sens. C'est peut-être un mécanisme qui expliquerait cette impression que nous avons bien.
Merci beaucoup en tout cas Michael Zugaro pour vos explications. Vous êtes neurobiologiste au CNRS et donc résultat publié récemment dans la revue Science. Merci à vous et merci Axel.
Merci pour votre invitation.
Merci.
Et je profite juste pour dire un petit mot complémentaire pour remercier et féliciter les deux doctorantes qui ont travaillé sur cette étude, Céline Drieux et Ralitza Todorova.
Merci de les citer, absolument.
Merci beaucoup.
Et d'ailleurs pour tous ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas assisté à notre conférence sur la mémoire la semaine dernière, on évoquait justement les neurones de lieu, et bien vous pouvez retrouver en podcast les discussions que nous avons eues mardi soir avec le neurologue Lionel Nakache. Pour retrouver justement la conférence, il vous suffit d'aller sur franceinter.fr. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, depuis 13 000 ans, les anciennes populations des Amériques voyagent du nord au sud et pour la première fois, et grâce à des analyses ADN, des généticiens reconstruisent l'histoire humaine des Amériques. Ils montrent que le peuplement du continent s'est fait assez rapidement après une arrivée par le nord, mais plus encore, ils démontrent l'existence et l'importance d'une population dont nous ne nous disposons d'aucun reste pour le moment. Tout porte à croire qu'il n'y a pas eu qu'une seule vague d'arrivée humaine sur le continent américain. Les orangs-outans confectionnent spontanément des outils en forme de crochet. Deux tâches successives ont été proposées à ces grands singes par des chercheurs autrichiens. Ils devaient d'abord plier un petit câble pour attraper de la nourriture dans un tube vertical, puis déplier ce même câble pour attraper de la nourriture cette fois dans un tube horizontal. Quasiment tous les animaux ont réussi sans la moindre aide, certains en moins d'une minute. Ce même test avait été proposé dans le passé à des enfants humains et seuls les plus de 8 ans avaient le même taux de réussite que les orangs-outans. Et puis on termine en son et en image pour fêter le 5000e lever de soleil capturé par le robot Opportunity sur la planète Mars. Les chercheurs de la NASA ont converti les données de la photo en musique. Ils ont associé les niveaux de brillance et de couleur de l'image à des notes de musique et à des harmonies. Le logiciel qui permet cette opération s'appelle le sonorisateur d'image et il pourrait servir à une autre forme d'analyse de données dans le futur. Vous pouvez en tout cas retrouver sur notre page Facebook cette drôle de mélodie martienne avec sa photo.